posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy saison 10 avec Nicolas Dose.
Bonjour, bienvenue. On continue cette deuxième phase de la BFM Academy saison 10. Je vous rappelle le petit film que vous avez vécu depuis le mois de avril-mai. On a eu 500 candidats qui ont postulé cette saison. On a fait passer des castings dans 4 villes de France à une cinquantaine de créateurs d'entreprises. Pour l'émission proprement dite, on en a gardé 15, puis à l'arrivée, on en a gardé 5. Et puis là, au jour de la finale, ce sera en direct le 29 juin. Alors, on va commencer avec 3 candidats vers 19h. Seulement, évidemment, à 20h30, il n'y aura qu'un lauréat pour cette saison. Bien, alors je vous rappelle toujours qui sont nos 5 entreprises, nos 5 entrepreneurs encore en lice. Il y a Bird Office, c'est le Airbnb des salles de réunion, la location en ligne de salles de réunion, première place de marché des lieux professionnels avec tout un service de conciergerie qui va avec. Son parrain s'appelle Sylvain Aurébi, il l'a sélectionné le 4 mai. Ornicar, celui qui a promis qu'il allait diviser par 2 le prix du permis de conduire. Et on a vu, mais on aura peut-être du nouveau, que depuis, il se bat un peu contre un système administratif et un bon vieux corporatisme des auto-écoles qui est un tout petit peu bien établi. Et sa marraine s'appelle Catherine Barba et elle l'a sélectionné le 11 mai. My Pop Corner met à disposition des e-commerçants, mais pas que des e-commerçants, des lieux physiques de vente éphémère, ça permet de tester un lieu, de tester un produit, de faire un coup marketing et un coup de vente à un moment précis de l'année. Lui aussi, il y a tout un service de conciergerie qui va avec, il va vous trouver la caisse enregistreuse, il va vous trouver les vendeuses. Et son parrain s'appelle Alain Bosetti, il l'a sélectionné le 18 mai, vous avez vécu 24 heures avec My Popcorn la semaine dernière. My Light System, c'est le photovoltaïque qui est enfin accessible à tous, chacun peut devenir producteur d'énergie et consommer en priorité sa propre énergie avec cette offre qu'on a détaillée à nouveau la semaine dernière. Avec sa marraine, Evelyne Platnik-Cohen, qui a sélectionné My Light System à Lyon et pour le casting, et le 25 mai, c'était dans l'émission. Et puis Print, qu'on va voir aussi aujourd'hui, la start-up qui a fait un carton total sur Kickstarter. Ils ont levé 1,5 million de dollars, alors qu'ils en attendaient 50 000 en seulement 3 semaines. Carton total aussi parmi les belles petites pépites françaises qu'on a pu voir au CES de Las Vegas. C'est la fameuse coque que vous clipez sur l'iPhone ou alors sur le Samsung et qui va permettre de développer en 30 secondes seulement vos photos à la bonne vieille méthode du Polaroid. Et sa marraine, c'est Eve Chégaret. Et Eve Chégaret a sélectionné Print le 1er juin. Alors, on va continuer donc dans cette émission para-marraine face au reste de l'équipe. Comme vous le savez, je leur ai demandé d'être dans le mode good cop, c'est-à-dire on est dans l'accompagnement du créateur d'entreprise, comment lui permettre de se révéler le plus possible. J'insiste sur ce terme good cop, parce que la semaine prochaine, ce sera l'avant-dernière émission avant la finale, et là, on va découvrir le côté obscur de l'équipe de BFM Academy, parce qu'ils vont se mettre en mode bad cop. Donc, cette semaine, on va vivre 24 heures avec Bird Office, avec Ornicar, avec Print. Eh bien, on va démarrer tout de suite avec le premier candidat du jour, qui s'appelle Arnaud Katz pour Bird Office, et son parrain, c'est Sylvain Aurébi.
BFM Academy, saison 10. Il n'en restera qu'un.
Arnaud Katz, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sylvain.
Bonjour.
C'est un bon élève. Nicolas.
Arnaud ?
Oui.
Pas mal.
Pas mal.
Oui. Bon. On peut mieux faire. On y travaille.
On y travaille. Alors on va voir ce qui s'est passé entre Sylvain et Arnaud ces derniers jours. Et face à vous deux, il y a une partie de l'équipe incarnée par Catherine Barba. Bonjour.
Bonjour.
Evelyne Platnik-Cohen.
Bonjour.
Et Eve Chégaret, toujours en mode good cop.
Bonjour.
Ça nous prépare donc une semaine prochaine absolument endiablée. Et on va commencer par un petit portrait d'Arnaud Katz, le créateur fondateur de Bird Office. C'est parti.
Bird Office, c'est d'abord un trio. Arnaud et Michael se sont rencontrés à HEC et ont ensuite recruté Kevin, le responsable technique de la start-up. Un trio très complémentaire. Ce que Michael apprécie tout particulièrement chez Arnaud, c'est son exigence.
Avec Arnaud, le diable se cache dans les détails. Ça nous pousse à vraiment aller jusqu'au bout des choses. Le point négatif, ça va être le côté organisation. Arnaud, c'est quelqu'un de pas très organisé, qui va dire les choses comme il le pense à tout va, à tout moment. Donc Kevin et moi, on est un peu là pour organiser le travail et tout ce qui peut sortir du cerveau d'Arnaud.
Même son de cloche du côté de Kevin.
On a toujours plein d'idées, donc c'est vrai que sur le site, on est toujours en train de rajouter des fonctionnalités. Mais par contre, dès qu'on en a fini une, on a déjà une autre qui attend, voire deux autres qui attendent. Donc c'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est vrai que c'est très challengeant. c'est très intéressant de travailler avec Arnaud pour ça.
Bird Office, c'est aussi une équipe. La start-up vient de passer le stade symbolique des 10 personnes. Toutes choisies avec soin. Et selon Arnaud, c'est ça qui fait toute la différence.
On arrive à tous les jours faire des choses qu'on aurait pensé impossibles. Finalement, on arrive à le faire. Et c'est, je pense que c'est avoir choisi les gens avec qui on construit les choses, qui est une véritable valeur ajoutée. On a créé une sorte de petite famille, entre guillemets. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment créer un véritable dynamisme et pour que les gens soient heureux de venir travailler tous les matins.
Heureux, Arnaud semble l'être, assurément.
On construit notre structure et notre univers tel qu'on l'a vraiment rêvé, tel qu'on le souhaite. Donc on a une liberté qui, je pense vraiment, qui a une valeur très forte.
Arnaud Katz, c'est ça le Arnaud Katz, c'est le vrai qu'on a vu là?
Ouais, je confirme tout ce qui a été dit.
Tout ce qui a été dit.
Exactement. Moi, je suis ravi de travailler avec mon équipe et je pense que c'est la vraie force de Bird Office aujourd'hui.
Bon, Bird Office, création en décembre 2013, 530 000 euros de chiffre d'affaires attendu en 2015, 2 millions en 2016, 7 millions et demi d'euros en 2017, 10 personnes, j'en étais resté à 9, ouais. Ça ne cesse d'augmenter. Donc c'est le Airbnb, comme on dit, hein, des bureaux, des salles de réunion disponibles, première place de marché d'espace professionnel. Vous êtes à combien de résa aujourd'hui par jour?
Bah, justement, vous disiez qu'on voulait faire 500 000 cette année. Finalement, on a réévalué à la hausse puisqu'on évalue autour d'un million d'euros cette année.
Autour d'un million d'euros. Ben voilà, l'immobilier, wow. C'est là.
C'est l'effet BFM Academy.
Mon coaching a déjà fait de l'effet. Voilà. Formidable.
L'effet BFM Academy. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est l'une des premières dépenses, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Alors, louer des locaux ou mettre des locaux à disposition, c'est évidemment une manière de faire des économies. On va commencer à partir dans votre journée marathon que vous avez partagé avec Sylvain Aurébi. 24 heures avec Bird Office, Arnaud Katz et Sylvain Aurébi. Première partie, on y va.
Ce jeudi-là, Arnaud Katz a rendez-vous avec son coach Sylvain Aurébi dans les bureaux d'Orientis, la maison mère de Kousmiti.
J'attends de cette journée un retour d'expérience pour éviter toutes les bêtises du quotidien, mais surtout une inspiration de l'énergie que met Sylvain dans sa boîte.
Cette journée avec Arnaud, elle va être intense. On a beaucoup de sujets. Il y a le marketing que je vais triturer un peu pour voir comment il peut le muscler. Le client, comment l'attraper, comment lui donner un bon service. Et puis il y a son développement en France, son développement à l'international et puis le développement de son offre. Donc voilà, il y a un certain nombre de problématiques qu'on va essayer de traiter aujourd'hui pour le rendre plus fort pour qu'il arrive en finale. Salut Arnaud.
Tu vas bien Sylvain?
Ça va et toi?
Ça pêche?
Bon, bah oui, pleine forme. Allez, t'es prêt?
C'est parti.
Première préoccupation d'Arnaud, créer une marque forte. Sylvain commence par le féliciter. Bird Office est très bien référencé sur Google.
C'est quand même formidable parce qu'il n'y a personne d'autre. Moi, j'ai tapé location de salle de réunion, je tombe sur Bird Office, qui est quand même excellent. Twitter, ça marche bien. LinkedIn, ça peut être quelque chose de très viral aussi.
Ouais, mais tu vois, LinkedIn, c'est cher.
C'est cher, probablement. Malheureusement, au départ, il faut investir... Je vais dire à fond perdu, le retour sur investissement, il n'est pas immédiat. Il faut que tu bâtisses ta marque et il faut que tu bâtisses ta base de clientèle. Et ça ne se rembourse pas immédiatement. Et si tu attends que chaque euro investi te rapporte 1,20€, tu n'y arriveras jamais.
J'adore ta vision qui est complètement différente du monde de la start-up aujourd'hui, qui te vise absolument à te dire, il faut trouver la petite recette, il faut trouver...
La petite recette, elle fonctionnera d'autant mieux, ouais, que... Tu as labouré ton terrain. Je dis à chaque entrepreneur que je rencontre, si vous n'avez pas 18 mois de cash devant vous, c'est pas la peine d'y aller. Tu as aujourd'hui une plateforme technique qui est formidable. Ton site est très bien. Tu as tous les ingrédients d'une réussite. Il t'en manque un, c'est l'argent.
L'argent, c'est donc le nerf de la guerre pour attirer la clientèle. Mais quelle clientèle?
Quels sont les gens qui véritablement peuvent constituer une cible qui est prête à dépenser de l'argent pour ton service?
Aujourd'hui, on a identifié vraiment trois typologies de clients. Donc typiquement le voyageur d'affaires ou une autre typologie, le formateur, le coach. Donc peut-être que c'est vraiment par latéral de client qu'il faut adresser et pas par canaux de vente. Et après, essayer de voir comment ces gens-là fonctionnent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un réflexe qu'on n'a pas encore eu, quoi.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier? Est-ce que c'est de trouver le client qui va rechercher une salle ou est-ce que c'est de trouver la salle elle-même? Quel est le plus difficile aujourd'hui?
On a aujourd'hui une belle expertise pour trouver de l'offre.
Donc l'offre, elle est simple chez, ouais, toi. Ça confirme que c'est le client qui va rechercher une salle.
Bien sûr.
Qui est l'élément sur lequel tu dois investir un maximum, clairement. Je vois bien que les salles, on va en trouver.
On va en trouver.
Mais le client, c'est lui qu'il faut aller véritablement chercher. Ça, c'est un sacré boulot. Mais tu sais sur quoi tu vas devoir mettre le focus dans les mois qui viennent.
C'est l'heure de faire une petite pause. Sylvain emmène Arnaud dans sa boutique Salon de thé des Champs-Élysées pour un déjeuner bien mérité.
Arnaud Katz, c'est bon le Gousmichov, là, le repas?
C'était vraiment délicieux.
Ah bon, d'accord. Ça vaut la peine d'y aller, c'est au 41 ou avenue des Champs. Hein,
71.
71, ah, j'avais un chiffre.
Elle est bien, cette pub Gousmichov.
Elle est bien, ouais.
Elle est très, très bien.
C'était le budget référencement, là, le Google, Twitter et compagnie.
On met une centaine d'euros par jour sur AdWords.
Ah, quand même, ouais. Mm. Et a priori, c'est 100 euros aujourd'hui, ça va être 150 dans un an.
On est rentable, on est rentable aujourd'hui sur les AdWords.
Bon. Ouais, mais c'est souvent un budget vachement important.
Et le coût du lead?
Le coût de...
Du lead?
On peut se permettre de dépenser, nous, autour de 100 euros par client, un peu plus de 100 euros par client.
Bon. Ça, ce sont les vrais nouveaux coûts, en fait.
Ouais.
Hein.
Ouais. C'est... Absolument.
Catherine, mais énormément augmenté ces dernières années.
Ah, il y a plein d'entrepreneurs qui se désespèrent de leur facture
Google. Pas autant,
mais
on peut nous se permettre de dépenser ce montant-là.
Non, mais donc, du coup, l'enjeu, ça va être de réussir à se libérer de cette emprise-là.
Peut-être trouver d'autres choses. Quoi.
Bien sûr.
Et bon. Vous avez déjà des idées?
Bah, justement, c'est tout l'objet du coaching.
Sylvain Rébi, impression, analyse, commentaire, rumeur.
Moi, j'avais vu Arnaud uniquement à la télévision et puis par son dossier. Et quand on a passé cette journée ensemble hier, j'ai compris beaucoup de choses d'abord de lui et de son équipe. Ils sont extrêmement dynamiques, extrêmement motivés. Puis j'ai compris que son business, il avait un véritable avenir. Il y a énormément de choses derrière Bird Office. Il y a énormément de potentiel. J'ai découvert ça hier en parlant avec lui. On est rentré dans le détail de beaucoup de choses. On a vu que quelques minutes d'image là. Je pense que derrière ça, on a un business qui va se développer à long terme. Bon. Donc, très, très intéressant.
Et alors Arnaud, votre retour de ces premiers éléments de rencontre avec Sylvain Rébi?
Ce qui a été assez fort, je pense, c'est que...
C'est la première fois d'abord que quelqu'un est à côté de vous et se met à s'intéresser dans le détail à votre business et à essayer de vous apporter. Parce que souvent, les gars sont tout seuls pendant très longtemps.
On connaît l'enjeu de se faire entourer. On était déjà pas mal entouré.
D'accord.
On le fait, mais c'est vrai qu'avoir un nouvel avis, surtout d'une assez bonne qualité, c'était top. Mais
assez bonne, hein, on a remarqué.
Très bonne, très bonne.
Je crois qu'il a dit aussi bonne. Aussi bonne.
C'est mon oreillette, c'est ça.
C'est l'oreille perverse de Catherine Barba qui, par moment.
Ce que je retiens vraiment, c'est que Sylvain, pour lui, une boîte, c'est comprendre ses clients. Son métier, c'est comprendre ses clients. Et nous, peut-être qu'on n'a pas mis assez d'efforts là-dedans. Et ça, une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus qu'à dérouler, quoi.
Ah, parce que finalement, il y a encore 24 heures, vous n'étiez pas sûr d'avoir totalement compris vos clients.
Bah, aujourd'hui, on a des clients, on a du chiffre d'affaires. Maintenant, quand on creuse, quand on va vraiment dans le détail, on peut en ressortir certaines choses qui peuvent être vraiment clés pour déployer.
Alors, il y avait ce qui vient de se dire dans ce petit film, rapidement. Arnaud, on vous a entendu dire, il faut qu'on travaille à voir comment fonctionnent vraiment ces gens-là, c'est les utilisateurs. Et je me suis dit, mais on est dans le cœur du sujet, quoi. Il me semble que c'est tout le boulot du lancement d'une boîte.
Mais c'est un peu le vice du web, quoi. Au final, il y a des gens qui viennent vers nous, qui commandent chez nous. Donc, on peut savoir quelles sont leurs typologies, d'où ils viennent, quel est leur métier. Mais au final, on ne sait pas vraiment quel a été leur fonctionnement pour qu'ils viennent jusqu'à nous.
Vous parliez, pardon, de trois types de clients.
Oui.
J'ai pas bien retenu, en fait. C'était quoi, les trois?
Nous, ce qui marche super bien, c'est le monde de la formation.
C'est moi qui peux être une jolie cliente.
Plein d'Evelyne.
Je crois que vous avez, il y en a déjà qui ont
testé. On a déjà utilisé. Voilà. Exactement, on a déjà utilisé.
Le monde de la formation, ça marche très bien.
D'accord.
Après, les coachs aussi.
Voilà, je le mets un peu dans le même ensemble.
Vous disiez les voyageurs d'affaires, non? C'est ça.
Exactement. Ouais. Le voyage d'affaires, typiquement, vous êtes de province, vous arrivez à Paris ou inversement, vous venez de Londres. Ça marche très bien. On a l'exemple de Criteo qui arrive de San Francisco ou de New York et qui prennent des salles directement en arrivant de l'aéroport. Ils nous ont expliqué qu'ils l'ont fait et ce retour, c'est quand même hyper riche. Et enfin, l'événement spécifique, une soirée, un petit déjeuner d'entreprise, pourquoi pas une assemblée générale, un comité de direction.
Qui est plus difficile à détecter. Parce qu'en fait, vous avez besoin de commerciaux pour aller chercher ce business-là.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit là au bon moment pour adresser le bon message.
Si on adresse de la pub en permanence... Vous n'en avez pas ou c'est pas le cas, vous n'en avez pas besoin?
C'est le cas, on a des clients comme ça. Maintenant, comment répliquer, comment déployer? Parce que ce marché, il existe, il est important. Et nous, on l'adresse d'une manière simplement différente que telle qu'il existe. Donc, il faut trouver les bons leviers.
Et c'est pour ça que vous parliez au tout début de la marque, qui est un sujet cher à Sylvain. Voilà. C'est comme ça que vous allez sortir du radar aussi.
Je pense que c'est un enjeu clé. C'est justement pour ça que son coaching, il était vraiment très précieux. C'est qu'il a eu cette dimension-là, lui, sur le marché du thé, que de se dire, si j'arrive pas à construire une marque super forte, j'existerai pas.
Justement, en ce moment, moi, je connais trois marques, dont la vôtre, Arnaud, qui ont le nom Bird dedans. Et je trouve que c'est un nom qui commence à être un petit peu galvaudé.
Ouais.
Nous, l'idée, c'était vraiment la liberté, quoi. Ce qu'on voulait, c'est quelqu'un qui est en déplacement, n'importe où, n'importe quand.
Qui vole de bureau en bureau.
Mais oui, bah, pour la première fois, il peut réserver un lieu pour travailler.
C'est la contrefaçon, c'est la rançon du succès. C'est parce qu'il est bon que tout le monde utilise le même nom que lui.
Peut-être
ça, Arnaud.
Je ne sais pas.
Il y a un truc qui est très fort chez Arnaud, c'est qu'il y a aussi une récurrence de ses clients, parce que les clients qui viennent de province, ils viennent, ou Criteo qui vient régulièrement. Donc, il n'y a pas uniquement à aller recruter de nouveaux clients, il y a à travailler sa base de clients actuels, et qui sont des gens qui reviennent toutes les semaines, tous les mois.
Qui peuvent être des ambassadeurs, en
plus. Le taux de repeat business.
Aujourd'hui, on est autour de 60%, mais encore une fois, là, tout dépend des typologies de clients, quoi. Sur les formateurs, il y en a qui en prennent toutes les semaines. Donc ça, c'est absolument fabuleux. Et on a, par exemple, les assemblées générales. On a un an de retour aujourd'hui sur nos clients. Il y en a qui, d'une année sur l'autre, ont refait leur assemblée générale par nous. Donc on se dit que voilà, la valeur et le temps qu'on a le client, ça peut être plus ou moins long.
Ça veut dire que pour ce genre de salle, pour les assemblées générales, vous avez une configuration un peu particulière. Moi, je vois qu'en ce moment, la tendance, ça va, on n'est plus en randonnion comme ça, mais on fait des petites tables rondes avec un iPad au centre. Vous avez
Tout l'enjeu de Bird Office, c'est du service. Donc quand vous allez réserver votre salle, vous allez pouvoir voir toutes les configurations possibles de votre salle.
Ah, ça me plaît, ça.
Donc typiquement, une salle d'entretien, une salle de conférence, une salle de réunion, ça, peu importe, vous aurez ce que vous
les cherchez. Services, vous allez travailler sur les services. Vous êtes en mesure de proposer du tekusmi aux gens qui louent.
C'est pas le but. Mais on a parlé. D'ailleurs, je crois que dans le deuxième extrait de la journée, on va parler du service justement et de l'offre. Et ça, on pourra en parler dans quelques minutes.
Tout,
on y arrivera.
Alors, on ne déflore pas tout. On va repartir sur les traces de Bird Office 24 heures avec Arnaud Katz et Sylvain Rémy.
Après le déjeuner, retour dans les bureaux de Sylvain. Au programme de l'après-midi, le développement géographique de Bird Office. Faut-il se renforcer en France ou commencer à se développer à l'étranger ?
Notre vision, elle est clairement d'être une boîte européenne. Donc on veut pouvoir se développer partout. Maintenant, on veut faire les étapes une par une. Et on ne veut pas aller se mettre les pieds dans le tapis, à vouloir être partout et au final en étant nulle part, quoi.
Moi, je serais d'avis d'investir d'abord sur le marché français. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, pendant ce temps-là, regarder les marchés étrangers, identifier dans quel pays tu veux aller en premier, parce qu'il faut choisir. Les marchés étrangers, on ne peut pas tous les attaquer en même temps.
On entend souvent qu'aller à l'étranger, au final, c'est jamais quelque chose de simple.
Ce n'est pas du tout simple, voilà. Je te confirme. C'est très compliqué et les problèmes sont démultipliés. Et encore une fois, l'étranger, on ne s'y jette pas à corps perdu. On ne se dit pas, allez, il faut que j'exporte. C'est une erreur grave et qui peut être très coûteuse. Parce que le temps qu'on s'en rende compte, on a installé des structures qui est trop difficile de détricoter.
Mais Arnaud ne veut pas renoncer pour autant à s'implanter à l'international.
Ce qu'on a l'impression, c'est que notre modèle, il est hyper scalable. Pour aller à Bruxelles, à Barcelone, à Londres, à Berlin, on n'a pas besoin de vraiment installer une équipe sur place. C'est pour ça que c'est un peu tentant d'aller rapidement partout, quand en fait, le coût, c'est simplement d'avoir un ou deux Allemands, un ou deux Anglais, qui vont faire du phoning de chez toi.
Ce qu'il faut, dans ce cas-là, c'est faire des tests. C'est essayer... à Londres, essayer à Berlin ou à Munich, essayer à Milan, essayer à Barcelone et voir où il y a une réponse. Mais après, l'idée à terme de 3 ans ou de 5 ans, c'est de pouvoir vendre ce modèle peut-être pour le faire en Asie avec un partenaire.
Après le développement géographique, Sylvain s'attaque au développement de l'offre de Bird Office.
Il faut étoffer l'offre et il faut effectivement attraper ton client et une fois que tu le tiens, lui offrir tout ce qu'il doit faire pour se rendre à ta salle, tout ce qu'il doit consommer sur place, et puis le logement pour passer la nuit ou les nuits. Derrière, ce qui compte, c'est le modèle économique.
Ouais.
Comment tu vas fonctionner avec ces partenaires, que ce soit des hôtels, que ce soit des Airbnb ou équivalents, que ce soit des chauffeurs privés pour emmener les gens sur place ou des drive-in pour des locations de voitures entre particuliers. Comment tu vas avoir un modèle pour aller prélever un peu d'argent sur chacun de tes partenaires?
On le fait déjà pour les plateaux repas et ça fonctionne très bien. On va déterminer à côté de chaque salle qu'est-ce qu'il y a de disponible comme service de nourriture et nos partenaires locaux vont proposer les services et nous on se commissionne dessus. Donc je pense qu'on est clairement sur la même longueur d'onde là-dessus.
Donc on a beaucoup de choses potentielles en développement.
Pour les
semaines et les mois qui viennent. Bon, allez.
Merci beaucoup Sylvain.
À bientôt. À bientôt. Adieu Arnaud. Bon, ça a été une journée très intense, très intéressante. Arnaud a un formidable potentiel. Il a un business qui peut se développer vraiment partout, en France, à l'étranger. Je crois beaucoup, beaucoup à Bird Office. Et j'espère qu'on pourra l'emmener en finale. Et j'espère qu'il pourra gagner. Mais même s'il ne gagne pas, il ira très loin avec son entreprise.
On vient d'avoir une journée très bien remplie avec Sylvain. On a clarifié plein de points cruciaux pour nous. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est attaquer.
Attaquer. Okay. Alors, on attaque le marché français, si j'ai bien compris, qui est tout neuf, qui est à conquérir avant d'attaquer les marchés étrangers. C'est ça un peu l'idée que j'ai retenue?
Ouais, l'idée, c'est de consolider vraiment la France. Ouais. Donc aujourd'hui, on est bien implanté à Paris. On fait Lyon, on fait Lille. Et ensuite, progressivement, on va aller récupérer de l'offre à Bruxelles, à Genève, au Luxembourg, pour pouvoir doucement déployer.
Bon, de toute façon, le nom est déjà exportable. Hein. Oui,
il faut utiliser une mécanique qui fonctionne. Et la mécanique, il faut la tester en France. On va pas aller la tester en Angleterre ou en Allemagne. Mmh. Donc toute la mécanique, toute l'offre, tout le travail sur le client, toute la recherche, il faut qu'ils l'expérimentent ici. En plus, ils sont chez eux, c'est facile pour eux. Et une fois qu'ils auront bâti un modèle qui fonctionne vraiment bien, qui soit vraiment efficace, ils pourront partir. Avant, c'est pas nécessaire.
Mais donc, ça existe peut-être déjà à l'international, ce type de modèle?
Un petit peu, mais il n'y a pas encore un modèle de référence, une vraie marque qui existe, qui a une notoriété. Donc on pense qu'on a vraiment on a une place à prendre sur ce créneau.
Parce que vous aviez la tentation de développer en même temps la France et le reste des pays?
En fait, nous, ce qui est important, c'est que les gens nous trouvent. Donc on a fait cet effort à Paris, en référencement naturel par exemple, et aujourd'hui on est très très bien référencé. Donc ce qu'on se dit, c'est que si on récupère de l'offre partout tout de suite, eh ben, on va pouvoir faire monter tous les marchés un petit peu en même temps.
Vous allez être Shiva, quoi.
Je ne sais pas si on va être Shiva.
C'est ça, non. Je ne vois pas. Hein. Concrètement, il va falloir le faire vivre.
Non, mais c'est pour ça qu'on va... Il va démarrer sur la France aujourd'hui.
Il faut y aller pas à pas, peut-être, non?
Oui, mais en tout cas, là, on veut vraiment être fort en France et après, doucement, la fond. Ouais.
Moi, j'ai une remarque, question sur l'équipe, parce que j'entendais l'accent de la sincérité, de l'authenticité, Arnaud, quand vous parliez du plaisir que vous avez à travailler, la bande des 10. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que cet aspect management, faire grandir les talents, c'est quelque chose qui vous stimule ou sans plus?
Ça a été assez facile chez nous parce qu'au final, comme on n'aime pas faire les mêmes choses au sein de l'équipe, on se répartit très bien les tâches. Mmh. Donc Mickaël sur son domaine, Kevin le sien. Et donc au final, on pense que chacun, on est compétent pour aller creuser nos sujets. Et c'est comme
Mickaël
ça qu'on est fort.
Mickaël fait quoi et Kevin fait quoi et vous faites quoi?
D'accord. Mickaël, c'est plus la partie financière administrative. Kevin, la techno. Ouais. Et moi, j'essaie vraiment de prioriser comment on va choisir qu'est-ce qu'on fait en premier, comment on fait en premier, sous leur contrôle, quoi.
Mais alors, si je rejoins comme salarié Bird Office dans quelques mois, parce que pourquoi pas?
Ça voudrait dire qu'ils ont de gros moyens. Hein,
c'est sûr. Hein, ils auront fait d'énormes marges.
Une grosse levée de fonds. Une
carrière, vous pouvez... Non, mais... Je plaisante qu'à moitié, mais un jeune plutôt, il me semble, qui rejoint la boîte, un jeune qui rejoint la boîte que vous avez montée aujourd'hui, quelle perspective de carrière vous lui offrez?
Nos métiers, c'est clairement du développement web, donc peut-être pour toi, c'est pas le top du top.
et après, c'est pas...
Alors,
un peu de communication, mais aujourd'hui c'est assez léger. Peut-être trop léger, mais aujourd'hui on est sur une structure très très légère et on met vraiment notre force sur les commerciaux, donc c'est démarcher des salles pour augmenter l'offre.
Démarcher des salles que démarcher les clients.
Aujourd'hui on n'a aucun commerciaux qui démarche vraiment des clients directement.
D'accord. Si Eve rejoint l'équipe, est-ce qu'elle serait associée au capital? Aujourd'hui, les gens qui vous rejoignent, qu'ils sont...
Là, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais lors de notre levée de fonds, on pense clairement créer un plan pour que tout le monde soit intéressé à ça.
Oui. Bien.
La levée de fonds, vous imaginez quoi?
On est tellement concentré sur nos chiffres aujourd'hui. Ce qu'on nous dit, c'est vraiment, si vous tenez votre objectif, qui sont ambitieux, la levée de fonds, elle va suivre. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu me libérer, et Mickaël n'a pas encore pu se libérer assez de temps pour qu'on aille vraiment se mettre là-dedans.
Disons un mot de cette fameuse offre et le contenu de cette offre. On a compris le principe de location de salles professionnelles, mais il y a tout un contenu d'offre dont vous avez parlé avec Sylvain Arébi. Et c'est que dans votre discours, ça fait quand même maintenant quelques fois qu'on se rencontre, Arnaud. C'est toujours un truc qui arrive super tard.
Mais pourtant,
on est à 4 minutes 40
Et pourtant, c'est l'avenir, parce qu'on est un point d'entrée hyper puissant. Quelqu'un cherche une salle, il a besoin de plein de choses. Et ils n'ont pas le sentiment qu'on leur refourgue des choses. Ils ont le sentiment qu'on leur apporte du service.
Mais je ne suis pas sûr qu'ils le voient tout de suite, que vous allez leur fournir de l'offre complète.
Mais ils nous le demandent. Donc on se dit qu'on est le point d'entrée.
Mais attends, par rapport à Châteauforme, quand j'y vais, qui me propose un grand panel. Moi aussi, je suis fan.
Je les vois comme des partenaires, au même titre que je verrais un groupe comme Accor.
Mais quel est le service que vous amenez? Parce que, par exemple,
exemple, vous parliez de plateau repas.
Oui.
Donc déjà, est-ce que vous avez différentes gammes de plateau repas?
Oui, bien sûr.
Après, quelle est la stratégie? Parce que moi, je pensais à une appli comme Evenium, par exemple, d'ailleurs, que vous avez reçue sur BFM Academy. Et il y a des vraies stratégies de partenariat. Alors, en plus, c'est des services complémentaires, mais en plus, il y a des stratégies de partenariat. Ils sont très visibles.
Est-ce que vous avez, ce qu'on s'est dit avec Arnaud dans nos 24 heures, c'est qu'il fallait que son offre, la largeur de l'offre, soit plus présente sur son site. Hein, il faut qu'on voit véritablement tout ce qu'il est possible d'avoir, qu'on puisse cocher des cases pour avoir plusieurs choses, pour avoir le transport, pour avoir l'hôtel, pour avoir le déjeuner ou le dîner. Enfin, il faut vraiment que ça devienne une espèce de portail de l'économie collaborative. Voilà. L'économie du partage,
elle n'a pas son du voyage d'affaires.
Enfin, le portail de l'économie collaborative.
Les gars, un portail, ça fait un peu années 90.
Exactement. L'économie du partage, à un moment donné, si j'ai besoin d'une salle et que je vais acheter, consommer des services complémentaires, j'en ai marre qu'on me parle d'économie du partage. Il va falloir trouver des mots là, pour parler de votre métier, parce que vous êtes un point d'entrée, vous orientez vers les bons prestataires que vous avez sélectionnés.
Et on pense savoir le gérer. Hein. On pense savoir le gérer. Typiquement, un château forme, il va proposer ses plateaux repas. On ne va pas mettre ceux de quelqu'un d'autre. Typiquement, vous n'avez pas de service annexe autour, et c'est nous qui allons proposer ces services-là.
Mais pour le client, dans les coulisses, ce qui se passe, il s'en fiche un peu. Ce
exactement.
Qu'il veut, c'est le choix.
Le client, en fonction de ce qu'on peut lui proposer, parce que Château Forme voudra proposer que du Château Forme et pas autre chose, mais au final, le client, il pourra choisir ce dont il a besoin, il aura le service complet.
Que l'économie de partage, c'est la stratégie de partenariat. Aujourd'hui, quels sont vos vrais partenaires qui vous permettent de diffuser la bonne parole, avec qui vous avez mis en place un partenaire?
Il y a deux cas de figure. Soit ils ont, la salle a déjà un service de traiteur, du coup...
Je ne parle pas que traiteur, de façon
aujourd'hui,
générale.
Aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup...
Parce que traiteur, vous n'êtes pas partenaire, c'est vraiment ça pour l'instant. Vous êtes acheteur.
Aujourd'hui, on est acheteur de plateaux repas, de petits déjeuners.
C'est pas du partenariat.
D'accord, nous on les voit comme des partenaires puisqu'on leur permet en fait de vendre leurs produits. Quoi.
Oui, oui.
Non, puis il y a les hôtels, il y a clairement le logement. Le logement, typiquement, on a parlé d'accord hôtel, qui a le logement, qui a les salles, qui a la restauration. Ça peut être un partenaire parfait pour Bird Office.
Bien sûr. Et exactement.
Voilà, il faut créer des partenariats comme ça.
Il y a des petits hôtels aussi du quartier qui n'ont pas de salle de réunion, donc ils ne peuvent pas accepter de groupe et qui se font. Et donc là, il y a une stratégie de partenariat entre les hôtels et vous. Moi, c'est ça que j'appelle la stratégie.
Ça, on ne l'a pas encore creusé.
Mais ça, vous êtes en train de construire le premier étage de la fusée. C'est-à-dire, on est un peu sur un catalogue d'offres de salles qu'il va falloir enrichir petit à petit. Et c'est ça tout l'enjeu, finalement.
Oui, moi, c'est marrant. L'analogie qui me venait, c'était pas fusée, c'était gourmand, mais c'est peut-être parce qu'on parlait des plateaux repas.
Gourmand.
Je me dis que là, vous avez tous les ingrédients et maintenant, il faudrait faire la sauce de la salade pour que salade César, elle soit vraiment top.
Des croutons aussi, moi, j'aime bien.
Et attention à ne pas vouloir un développement trop important rapidement tant que tout ça n'est pas solide, puisque en solidifiant cette partie-là, vous allez pouvoir vous développer beaucoup plus vite après.
C'est pour ça qu'on consolide vraiment notre offre de salle aujourd'hui, qu'on veut être vraiment quelque chose
impeccable.
Mais là, quand on parlait avec Sylvain Aurémy de voyage, qu'est-ce qu'on avait dit, hôtel, c'est une vue de l'esprit. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de proposer
aujourd'hui, on va les renvoyer, mais de manière, j'ai envie de dire, presque manuelle vers nos partenaires.
Allez sur booking.com, vous trouvez tout ce que vous voulez.
On a commencé à identifier.
Arnaud, il faut lever beaucoup d'argent.
Moi, je vais vous dire une chose. Je trouve que les réactions de mes trois copines sont excellentes et montrent que Bird Office a un énorme avenir. Je vous remercie de l'avoir appuyé parce qu'il n'y a eu que des bonnes idées. Et qui montre que... elles ont été good cop.
Je vous rappelle que nous sommes en mode good cop.
On est en mode good cop.
Voilà, cette première partie de l'émission s'achève avec Arnaud Katz, Sylvain Rivi et Bird Office. Vous savez qu'on retrouvera Arnaud avec nos deux autres candidats du jour qui sont Ornicard et Print en toute fin d'émission. Ils auront chacun une minute pour nous convaincre de voter pour eux dans une semaine. Dans la perspective de la finale, on se retrouve immédiatement avec notre second candidat du jour. C'est Alexandre Chartier qui nous parle d'Ornicard et sa marraine s'appelle Eve Chégaray. Non, Catherine Barba. Catherine Barba.
Moi, je vais en prendre deux.
Non, c'est le mien.
BFM Academy, saison 10, ils y croient. Mais croirez-vous en eux ?
Voilà la suite de cette émission, de la deuxième phase de la saison 10. La semaine prochaine, ça va être terrifiant, ça je vous l'assure. Après, c'est la finale en public. On est avec Alexandre Chartier. Bonjour Alexandre Chartier.
Bonjour.
Il est le cofondateur d'Ornicar. Il a été sélectionné par Catherine Barba. Bien, bien, bien. Alors, on accueille Alain Bozetti. Bienvenue Alain.
Bonjour Nicolas.
Nous sommes toujours avec Evelyne Platnik-Cohen et avec Eve Chégaret. On va en savoir un petit peu plus sur la personnalité d'Alexandre Chartier en regardant le portrait qui a été concocté par la rédaction de BFM Business. Après, on rentre un peu dans son business et nous partirons 24 heures avec Alexandre et Catherine.
Un grand cœur, peut-être même un peu trop grand pour lui. Voilà ce qui définit le mieux Alexandre Chartier à en croire ses proches. C'est avant tout ses qualités humaines qui ont convaincu Benjamin Guaignot de le suivre dans l'aventure Ornicar.
Travailler avec Alexandre, c'est avant tout de l'humain. C'est-à-dire qu'on ne commence pas, quand on se voit, on ne commence pas à parler d'Ornicar sans se demander l'un et l'autre comment on va dans nos vies personnelles, dans nos vies conjugales, etc. Ça, c'est Alexandre qui a instauré ça et je trouve que cette notion plaisir et bonheur dans nos échanges et dans notre travail est primordial et je l'en remercie tous les jours pour ça.
Alexandre, c'est aussi un enthousiaste né, ce qui pourrait lui jouer des tours. Son mentor, Benoît Volatier, qui l'accompagne depuis des années dans l'aventure entrepreneuriale, lui reconnaît ce seul défaut.
Parfois, je trouve qu'il rebondit trop vite. Exemple, dans l'aventure d'Ornicar, il y a eu des soucis, y compris des soucis juridiques, et le jugement n'avait pas encore été rendu sur le scénario du pire. Il était quasiment déjà en train de se dire « c'est génial si on a le scénario du pire, parce qu'on va rebondir comme ci et comme ça ».
Alexandre lui-même le reconnaît, il est trop confiant.
Je suis persuadé qu'on va y arriver. Et donc je sais que ça peut énerver d'être aussi convaincu et que ça peut créer peut-être certaines personnes doivent se dire pour qui il se prend, quoi. Vouloir justement essayer de changer le monde, quoi. Quitter pour ça.
Alexandre est peut-être trop sûr de son combat, mais ce combat est juste. Faire d'Ornicar une aventure utile à tous.
Même question, là, le portrait, ça vous va? L'entrepreneur heureux, quasi jouisseur.
C'est très émouvant de voir son associé parler de l'autre associé, parce que c'est effectivement des. Généralement, on est plutôt dans un face-à-face, et là, de le voir parler à une caméra de moi, de son associé, c'est assez émouvant, pareil, d'entendre parler Benoît, mon mentor depuis plusieurs années, qui parle, c'est très émouvant, et ça fait plaisir, parce qu'en tout cas, j'ai l'impression d'être à la bonne place avec eux, donc.
Bien, Ornicar, donc création en juillet 2014, 1 million d'euros espérés, mais d'ici 2017, parce que tout ça est en train de voir le jour, c'est véritablement l'œuf qui est sur le point d'éclore. Alors il a commencé à éclore, puisque on peut passer le code de la route, hein. Ça c'est déjà possible. Il y a 12 personnes, 10 personnes sont en CDI. Comment elles sont payées déjà ces personnes pour une activité qui est encore à peine naissante, sur une levée de fonds?
On essaie qu'elles soient bien payées, ouais, sur une levée de fonds, ouais, effectivement. Voilà.
Donc
on a petit point juste sur la rémunération. On a fait quelque chose d'assez amusant chez Ornicar. On a décidé ensemble de nos salaires. C'est-à-dire que c'est pas moi, créateur, cofondateur de la boîte, qui a décidé combien vous êtes payé. C'est qu'on a consensuellement, de façon consensuelle, on a établi une matrice, des règles.
En regardant un peu le marché
et puis avec ce dont chacun avait besoin pour vivre, et on a trouvé un bon
donc
équilibre.
Donc vous êtes à 1,2 million
chacun. Voilà.
Chacun. Donc vous avez promis de diviser le permis de conduire par deux. C'est le permis de conduire libre, le permis de conduire très numérique, l'auto-école 100% web, j'ai envie de dire. Place de marché entre ceux qui veulent passer le permis et des moniteurs indépendants qui sont diplômés d'État. Vous avez eu pas mal de prix, hein, le prix de l'innovation de la ville de Paris en décembre 2014. Vous étiez dans les 101 projets dont on a tant parlé au Théâtre de Paris, le Théâtre de Jean-Quentin de Grangeon, ces fameux 101 projets. Et puis on sait que vous vous battez quand même depuis un certain temps, à la fois contre la préfecture de police pour obtenir l'agrément qui vous permet de passer à l'acte des cours de conduite. Il n'y a pas que la préfecture de police quand on parle des auto-écoles. Il y a les auto-écoles Canal Historique, on imagine ce que c'est. Pourtant, il y a de la place, 1 million
on
de candidats.
Se bat pas, il danse il avec danse. La préfecture, il danse. Alexandre.
Il est heureux, il est jouisseur, il danse, il a un cœur gros comme ça. Et la préfecture s'en est rendu compte. Et il y a quand même de la place. Il y a 1 million de candidats par an en France qui sont candidats au permis de conduire. Alors on va partir, comme tout à l'heure, avec Arnaud Katz et Bird Office, sur les traces d'Alexandre, avec Catherine Barba, 24 heures avec Ornicar.
Aujourd'hui, Alexandre a rendez-vous avec son coach.
Ce que j'attends de cette journée avec Catherine, c'est d'abord les bonnes ondes de Catherine. Parce que Catherine est quelqu'un de solaire, donc ça fait du bien déjà. Et ensuite, des conseils, parce qu'elle accompagne aussi des super boîtes comme Litchi. Et donc, son retour d'expérience, des petits tips qu'on pourra avoir utilisés sur la relation client, sur plein de choses, lui présenter notre offre de code et faire un petit point ensemble.
Ce que je peux apporter à une société comme Ornicar, c'est les aider, en particulier sur le sujet qui est crucial pour moi, de la proximité avec les clients. Ils n'ont pas de magasin physique, ils n'ont pas d'ancrage réel. Donc tout se passe à distance. Et comment tu crées du lien et tu fais de chaque utilisateur un ambassadeur? Salut.
Salut Catherine.
Ça va?
Bien et toi?
Alexandre informe Catherine de l'actualité d'Ornicar, le lancement de son offre Code en ligne. La start-up prend quasiment le candidat au permis de conduire par la main.
En fait, il remplit toutes les infos, si tu veux, en ligne. Mm-hmm. Nous, on lui imprime les CERFA, tu sais, tous les formulaires et tout, des enveloppes préaffranchies avec la liste des préfectures, etc.
Hyper pratique. Voilà. Hyper simple. Merci, Ornica.
Catherine est présente au conseil d'administration de nombreuses start-up et Alexandre aimerait bien pouvoir leur piquer quelques astuces.
J'avais un conseil à demander. Toi, t'accompagnes pas mal de boîtes. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, peut-être qui pourrait nous servir, un petit tip?
Je sais pas à quelle fréquence tu fais tes boards.
Souvent la veille, voire deux jours avant.
Une semaine avant. Ça, c'est très important. Parce que comme ça, les board members ont le temps de regarder les chiffres. C'est hyper bien fait. La structure est bien. On l'a définie ensemble.
Dernier conseil de Catherine, savoir bien s'entourer.
Ne pas mégoter sur le casting. Et c'est pas grave de payer les gens cher. Parce que les gens qui ont de la valeur, ils coûtent cher. L'aventure humaine, elle est essentielle.
Il est 13h. Catherine emmène Alexandre déjeuner. Elle veut lui présenter Fabien Cauchy, un expert de la French Tech, à Bordeaux. L'occasion d'aborder le déploiement d'Ornicar en province.
On essaie de développer une offre nationale avec notre réseau d'enseignants. Donc, aujourd'hui, on est présent à Paris et Nantes, nos deux bureaux, et Bordeaux. On a pas mal d'enseignants qui aimeraient travailler avec nous et on réfléchit à peut-être s'installer là-bas. Donc,
Dans deux ans, on sera à 2 heures de Paris. Et puis, en plus, il y a une très, très belle dynamique et French Tech et Sharing Economy qui se développe sur Bordeaux et qui est assez intéressante. Donc,
je pense qu'on va réfléchir alors à... On est bien à Nantes, mais on aimerait peut-être justement, s'il faut qu'on ouvre un autre endroit, alors ce sera Bordeaux.
Tu viens quand tu veux à Bordeaux, on t'accueillera. Il y a un lieu extraordinaire pour héberger ton entreprise, c'est Darwin, qui est un lieu, un écosystème co-créatif, open, innovant. Et puis il y a des tas de structures d'innovation comme Digital Aquitaine, comme le Syntec Numérique ou la French Tech Bordeaux qui vont pouvoir t'accueillir et te mettre en relation avec toutes les bonnes personnes pour faire en sorte que tu puisses développer ton business hyper rapidement.
En attendant de mettre un pied en Aquitaine, Alexandre poursuit sa journée à Paris avec Catherine qui a encore prévu d'autres rencontres pour son poulain.
Mais nous on y va ?
Bon, Catherine Barba, c'est premier contact avec Alexandre alors ?
C'est drôle parce que quand je revois les images, on l'a fait il y a un petit moment déjà, je me remets en situation et le mot qui me revient en tête c'est plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à cette journée et je me suis pas retrouvée dans la position du coach, mais plutôt du business angel ou de l'administrateur. En fait, je me voyais bien dans ce rôle.
Message.
Pas du tout. Et j'ai aimé. Et c'est important parce que quand on accompagne quelqu'un, il faut mieux avoir du plaisir à passer du temps avec, hein, quand même. Donc ça, c'était un bon moment. Ce que je retiens aussi, c'est qu'on a parlé des sujets essentiels. On a parlé du board. On a parlé de l'équipe. On a parlé d'ouverture, d'implantation régionale. Après, on verra, on a parlé de relations clients. Et j'ai été frappée par la maturité d'Alexandre. Tu sais, j'ai écouté... Je pensais à Evelyne, tu sais, qui a des méthodes de vente extraordinairement précises. Et je me disais...
C'est la maturité.
En fait, je me disais, Alexandre, il sait vendre. Il y a une espèce de quelque chose d'inné. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de technique pour le faire. C'est qu'il a tellement de conviction de ce qu'il veut faire. Il a une telle vision que c'est naturel pour lui et il t'embarque. Donc je suis séduite, vous l'aurez compris.
Il faut qu'on trouve des tracts.
Alexandre, comment vous disiez au début, Catherine, quand je te regarde, je bronze, t'es mon soleil, hein, je ne sais plus.
Ah oui, non, mais faut que je revienne plus souvent ici parce que bon, ça fait du bien autant de choses positives.
On a parlé de cœur, de gentillesse, de générosité, de bonheur,
c'est
de soleil,
hein,
de
waouh. Est-ce qu'on peut être concret? Parce que moi j'ai mon fils qui est en train de passer le permis de conduire.
D'accord,
à 18 ans. Et je viens d'aller à l'auto-école pour payer. Alors déjà à Paris, j'ai essayé tout de suite. Je suis allée sur le site d'Ornicar, mais évidemment impossible de me prendre en main sur ce sujet. Donc je suis allée dans une auto-école, je l'ai inscrite. L'auto-école a fait toute la démarche vis-à-vis de la préfecture, etc. Donc ça c'est
donc
une
les
démarche.
CERFA et tous les trucs pénibles.
Tout ce qui est pénible. Voilà, j'ai juste à donner une carte d'identité.
J'ai juste
trois
à
trucs.
Payer.
Et je paye. Alors je paye. Soyons très clairs, 400 euros.
Sur 20 ans.
Oui, 400 euros uniquement pour la partie code.
C'est 400 boules le code. 400,
oui, alors ça aurait pu être 200 si j'avais intégré les leçons de conduite. Mais connaissant mon fils, je me suis dit, attends Coco, tu vas déjà passer le code, on va pas perdre de temps, parce que je sais pas combien de temps il va mettre pour passer le code. Et puis ensuite, je vais payer les leçons de conduite. Donc globalement, ça va être un ticket autour de 1 800-2 000 euros. Demain, avec Ornicar, ça me coûterait combien? Et j'ai envie de dire, c'est quand demain, quoi. Parce que moi, j'ai la conduite qui va bientôt arriver.
T'es prête à laisser ton fils à...
Là, on est dans le dur, là.
On est dans le dur et ça fait du bien de parler du dur, là, parce que si on parle de code, justement, parce que ça, le code, on le fait déjà. En fait, la conduite, bien sûr,
vous
ça.
Vous avez fait passer des codes aujourd'hui. On a fait des passer, gens qui ont été codifiés en ICAR.
Il y a 3000 candidats aujourd'hui sur le code en ICAR. 3000 candidats, donc ce qui fait que virtuellement, en fait, on est presque la plus grosse auto-école de France déjà là-dessus, puisque quelle auto-école a 3000 candidats?
Ah, bah oui, c'est vrai.
Donc, on est finalement la plus grosse auto-école de France là-dessus. Bon, je ne vais pas dire auto-école parce qu'il faut un agrément pour ça, on ne l'a pas. Donc, disons, organisme de formation pour aider à passer
par bientôt agréé.
Bientôt agréé. Alors, pour le code de la route, si vous étiez venu chez nous, effectivement, à Paris, pour l'instant, on n'est pas présent. On est présent dans 87 départements français.
D'accord. Donc, j'ai pas de chance.
Donc, pas de chance, même s'il y a beaucoup de Parisiens. En fait, c'est vrai que pourquoi on n'est pas là à Paris? Parce que les délais sont plus importants. Et pour l'instant, vu qu'on fait très attention à la...
Quels délais?
Alors, les délais, en fait, pour obtenir une place d'examen.
D'accord.
Pour le code et la conduite, les deux, c'est quand même assez compliqué à Paris. En fait, il y a une pénurie en France d'inspecteurs, et plus précisément en Île-de-France. Donc, pour l'instant, on a exclu l'Île-de-France, puisque nous, quelque chose qui est très important dans notre projet, c'est l'expérience utilisateur, la satisfaction utilisateur. Et donc, on a refusé. On s'est dit, voilà, on abandonne Paris pour l'instant, parce qu'ils seront déçus, ne serait-ce que par délai. Nous, on veut des candidats heureux. On parle de bonheur, de plaisir, c'est ce qu'on veut aussi pour nos candidats. Donc, concrètement, aujourd'hui, le code chez Ornicar, 8 fois moins cher que ce que vous avez, puisqu'on est à 50 euros.
Donc, alors 50 euros,
illimité. Il n'y a pas de prix. Pour 50 euros, qu'est-ce qu'on fait? On envoie chez le candidat un livre de code. Ouais. Avec donc tout le cours de code
donc
nécessaire.
50 euros au lieu de 400 euros.
Il y a un entraînement illimité en ligne. Entraînement illimité donc à l'examen avec des séries officielles pour l'examen. Et enfin, il y a, on aide le candidat. En fait, on lui fait toute la paperasse administrative. C'est-à-dire qu'il remplit tout en ligne. Et en fait, il reçoit chez lui. Il a plus qu'à tout le dossier. Il a plus qu'à mettre une photo signée. Il a les enveloppes préinfranchies pour la préfecture. Il le pose dans sa boîte aux lettres. Et c'est bon,
écoutez,
il y a une place d'examen.
Moi, je le repasse. Ça me fait trop.
Mais elle va déménager pour ça. C'est nos limites.
Ce qui est super, c'est que je conduis mal, donc ça va être bien. C'est pas mal. C'est différemment.
Tu veux qu'on en parle?
Oui, différemment.
Et ce qui est super, juste un mot là-dessus, c'est qu'en fait, c'est que ça marche. C'est-à-dire que non seulement on a 3000 candidats qui sont là, mais en plus, on a, ça y est, les premiers qui réussissent, parce qu'on a lancé ça il y a quelques mois, ils ont le code. Et ils nous disent, mais on a eu notre code, on n'en revient même pas pour 50 euros.
En moyenne, alors?
Alors, ça dépend. Il y a des départements où c'est 2 mois, départements où c'est 3-4 mois. Mais en fait, la plupart de nos candidats nous disent, on a le temps, mais on n'a pas d'argent. Donc, en fait, on est étudiant, généralement, et en fait, on s'en fiche de l'avoir en 2 ou 4 mois. Ce qui compte,
c'est pas ça le critère.
C'est pas ça.
Alexandre, deux questions sur le 50 euros. Est-ce que c'est rentable pour vous? Est-ce que vous avez un objectif de rentabilité ou sur du volume? Ou est-ce que pour vous, c'est un filet pour aller attraper après des gens qui vont prendre les leçons de conduite avec Ornicar?
Quelle bonne question.
Et j'espère que vous allez aimer la réponse, parce que les deux, en fait, on est, non seulement, c'est effectivement, c'est un bon filet. Alors, on veut pas voir ça comme des proies qu'on va attraper, mais c'est effectivement une façon de faire venir beaucoup de candidats qui après vont faire la conduite. Donc ça, et ça marche bien, puisque avant la conduite, le code. Et ensuite, sur la question rentabilité, ça marche bien, puisqu'en gros, on marche à 50% sur ce produit-là.
À 50 euros le code, vous margez 50%. Voilà.
Oui, mais quand vous calculez vos 50%, alors là, c'est un peu curieux, parce que vous avez développé tout le système, j'imagine, c'est votre propre système que vous avez développé.
C'est même nos propres séries de codes, c'est-à-dire qu'on a envoyé nos enseignants sur la route avec des photographes pour faire nos propres séries.
Pourtant, ça existe, le code Rousseau, tout ça, il y a des choses sur étagère.
Alors ça existe, il se trouve que la plupart de ces éditeurs n'avaient pas forcément envie de travailler avec nous.
Il faut des refus de vente.
Peut-être. Ils avaient leurs clients, ils n'avaient peut-être pas envie de travailler avec nous. En tout cas, on a compris que ça allait être compliqué, surtout qu'en plus, même les technologies qu'ils utilisaient, parce qu'il ne faut pas oublier que ces éditeurs de code, à la base, c'est des éditeurs de livres, de bouquins. Et donc, ce n'est pas leur métier de faire du numérique. Alors que nous, ça, c'est notre métier. Donc, en fait, on a préféré partir à zéro.
Vous avez envoyé vos gars prendre les photos un carrefour.
C'est drôle. L'adversité.
Bah oui, on y va.
Et la qualité est top.
Combien d'exercices vous avez?
Pardon?
Combien
d'exercices
Oui, parce que moi, l'auto-école, quand je me suis inscrite, on a dit on a 3000 exercices en ligne, globalement.
En fait, on a 1200 questions avec les commentaires pédagogiques qui vont avec. Et donc, vu que c'est 40 questions par série, on est d'accord, 30 séries. Voilà.
Est-ce que vous avez un meilleur taux de réussite au code?
Pour l'instant, on a pratiquement un taux de 100%, mais c'est pas forcément représentatif.
C'est bon, t'as toutes tes chances. Tu peux y aller, déménage.
Je vais la voir.
24 heures avec Alexandre Chartier et Catherine Barba. On y va.
Catherine a décidé de présenter Alexandre à une start-up qu'elle connaît bien.
J'emmène Alexandre rencontrer SoShape, une start-up que j'adore, qui est dans l'univers de l'alimentaire pour maigrir. Ils ont une façon extraordinaire de faire de la relation client en ligne. J'aimerais bien qu'ils échangent.
Je vous en prie, allez-y.
chiez-vous ?
En fait, on a lancé donc Facebook, Twitter, ça n'a pas de problème, ça marche bien. Et on commence à se poser la question, comment on va aller sur Instagram ? Et on s'est dit que ça vaudrait le coup de te rencontrer pour savoir comment vous faites et comment pour essayer de bien faire comme vous.
En fait, au-delà du support, c'est-à-dire que ce soit Instagram, Pinterest ou ailleurs, la vraie question, c'est de se dire, en fait, comment vous voulez aimer vos consommateurs et comment eux vont vous aimer. Et ça, c'est la vraie question. Et je pense que chez Ornicar, il faut trouver un hashtag malin et permettre aux utilisateurs aussi d'Ornicar de se retrouver là-dessus pour discuter.
Alexandre envisage de monter un vrai service client. Il a besoin de l'avis de SoShape. Combien de personnes sont-elles nécessaires ? Pour Steven, ça n'est pas le sujet.
En fait, on va chercher d'abord chez les personnes une vraie qualité de cœur. Et trouver des personnes qui ont cette fibre-là, qui vont pouvoir parler à chacun de nos shapers comme si c'était soit leur petit frère ou leur petite sœur, donc avec beaucoup d'amour. Donc au-delà de l'aspect « je veux créer une communauté », en fait, nous, c'est comment on construit une famille.
Pour Alexandre, la rencontre a été particulièrement instructive.
Ce moment avec SoShape, c'était l'occasion de me rappeler l'importance des réseaux sociaux dans la relation utilisateur. Parce que c'est vrai qu'on les utilise, nous, mais on pourrait les utiliser encore mieux. Et ça fait du bien d'entendre l'expérience de SoShape qui a tout construit là-dessus. Et pour Ornicar, il y a plein de belles choses à faire. Donc plein d'idées déjà en tête là, à appliquer assez rapidement.
Pour Catherine, cette journée n'a fait que la conforter dans son choix.
Il y a trois choses qui m'ont marqué chez Alexandre d'Ornicar. La première, c'est sa maturité. Lui et son équipe, ils sont super jeunes et pour autant, ils ont une conscience très aiguë de toutes les composantes du succès. La deuxième chose, c'est l'humilité, la capacité d'écoute, de se remettre en cause. Ça fait du bien, ça. Et puis la troisième, c'est l'ambition, parce que malgré tout, je crois qu'il a envie de tout péter.
Catherine Barba, on revit un peu la petite séquence là, qu'on vient de voir. Il y a eu plein de termes que tout le monde ne connaît pas forcément avec cette rencontre que vous avez organisée avec un start-upper.
Oui, c'était SoShape. Donc, c'est une start-up toute naissante qui n'a que 6 mois, donc on la connaît pas forcément, mais on va en entendre parler. Ils font ce qu'on appelle la smart food, vous savez, la healthy food. Ils sont positionnés sur la nourriture soit qui fait maigrir, soit qui est gourmande et on prend 0 calorie. C'est fantastique.
Mais attends, on a déjà acheté la Eve, on l'achète.
Et en plus, oui. Non seulement c'est bon,
j'ai mangé les trucs de SoShape.
Voilà, c'est beau, c'est malin. Enfin, c'est.
Et t'as déjà investi là-bas ?
Oui, j'ai investi.
Alors qu'il y a que 6 mois de.
Voilà. Non. J'ai de la chance. Et en fait, ils utilisent extrêmement bien les réseaux sociaux pour faire du lien avec la communauté. Et ça fait écho
à quelque chose. Il était sur le mot famille, il a prononcé.
Oui, et c'est ça qui m'a donné envie qu'ils se rendent compte, c'est que on a parlé depuis tout à l'heure de bonheur, d'amour, et ils ont tous les deux, enfin, cette valeur-là qui est. Ils ont compris mieux que beaucoup de boîtes que finalement, ce qui comptait aujourd'hui, c'était d'apporter de l'écoute, de la considération aux clients. Que ce que les clients attendent aujourd'hui, au-delà évidemment d'un service de qualité, c'est d'être plus reconnu, plus accueilli que jamais. Et que la mission d'Ornicar comme de SoShape, et de toute boîte qui va marcher demain, hein, c'est de rendre service à chaque client et de lui parler comme si c'était un proche. Donc ta double mission, tu rends service, donc tu fais gagner de l'argent, du temps, peu importe. Tu crées un lien émotionnel. Tu tisses avec lui l'étoffe humaine qui sera la plus résistante
simplement,
au temps.
J'ai une réflexion, c'est que quand même le code et le permis, on est censé l'obtenir et on est censé quitter, je l'espère rapidement pour les candidats, on est censé quitter l'écosystème Ornicar assez rapidement.
Oui, le lien d'amour fraternel qu'on a noué pendant un mois et demi, deux mois.
Ce lien. C'est comme pour Mythique, en fait, quand t'as trouvé ton
truc, tu t'embarques. Je suis sûre que je me souvent, quand même.
Alors, oui, c'est vrai, pourquoi se donner tous mal alors que finalement, comme dit Pierre et Loulou, quand j'arriverai là-haut, l'oiseau se sera envolé.
Souvenez
l'histoire des chats.
Eh ben, on se rend compte, au contraire, que c'est effectivement que nos utilisateurs, qui ont déjà eu le code, c'est nos meilleurs ambassadeurs,
ah ouais,
qui continuent à parler. Tout le monde connaît quelqu'un autour de lui, à tout âge, qui passe par le conduire.
Ah et non, en fait, à tout âge, c'est vrai.
Et c'est ce qui est super avec notre projet, c'est qu'en fait, on a toujours envie, on connaît tous quelqu'un qu'on peut aider là-dessus. Et nous, notre mission, en fait, c'est de faire que tout le monde ait ce réflexe de dire, tu veux passer le permis ? Parce que l'Ornicar, c'est la meilleure solution pour toi. Et ça, et donc en fait, c'est le boulot de chacun. Et même, il y a des personnes qui ont déjà le permis depuis des années, qui nous suivent sur Facebook, c'est super, qui nous envoient des messages toutes les semaines d'amour, nous dire continuez, lâchez pas, etc.
Et oui, donc mais ça, c'est. Vous êtes moins cher, c'est déjà très bien d'être moins cher. Est-ce que vous avez besoin pour autant de créer toute cette relation ? Et cette relation-là, elle ne peut pas être que Internet. Il va falloir du monde derrière pour répondre au téléphone. Et ça, on l'oublie souvent. On croit que tout va être électronique, tout va passer par le net. Mais c'est pas vrai.
Alors, c'est marrant parce que depuis que cette super rencontre avec SoShape, là,
On a essayé de mettre en place quelque chose sur les réseaux sociaux qui fonctionne très bien. C'est en fait d'engager notre communauté pour qu'eux-mêmes répondent aux autres utilisateurs. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive, et ça se met bien en place, à finalement même plus répondre aux questions. C'est-à-dire que la communauté d'elle-même répond aux questions, et il y a un système d'entraide, de solidarité sur un sujet qui est le permis de conduire, qui est tellement important pour plein de personnes, que du coup, ils ont envie d'aider les autres. Et ça, c'est super. Donc, on se rend compte qu'en plus, eh ben, ça nous décharge du temps, et où on peut plus travailler sur le produit.
Vous savez, je trouve qu'on est presque un peu dans l'euphémisme sur l'importance du permis de conduire. Pourquoi ça touche tant de gens? Pourquoi, on en sourit, etc., mais on voit... Ça veut dire emploi, avoir le permis. Ça veut dire liberté pour un jeune. C'est à 18 ans qu'on peut commencer à le passer. Bon, à 16 ans, on t'a permis de t'accompagner. Tiens, d'ailleurs, je vous poserai la question. Mais oui, ça porte plein de choses quand même. Quand il y a des gamins qui sont jeunes, même diplômés, et ils sont déjà en galère, alors imaginez, avec pas tellement de bagages, il leur faut une petite bagnole pour pouvoir trouver un emploi quelque part, etc.
Faire du Uber Pop, en ce moment, Uber Pop. C'est que des jeunes qui ont des voitures.
Il faut quand même avoir le permis.
Donc, tout le monde ne peut pas l'avoir.
Donc, moi, je pense que vous portez aussi tout ça, en fait. Ornicar, ça porte aussi cette valeur de donner accès à la vie professionnelle.
Je ne sais plus quel est le pourcentage de gens qui conduisent sans permis, notamment parce que. Non, c'est vrai, parce qu'on leur a enlevé les 12 points, non, mais c'est une catastrophe, mais soit parce qu'ils n'ont plus de points, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'avoir. Il y a sur les routes,
Alexandre,
il y a un point que j'aimerais creuser avec vous, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris en fait. Parce que je crois que donc, vous attendez l'agrément, on va peut-être en reparler, ce fameux agrément, mais quand on regarde certains de vos confrères, frères qui sont sur la même voie que vous, comme Permis Go ou Permis Libre, eux, pourtant, aujourd'hui, ils font passer le code, comme vous, sur Internet, mais en plus, ils ont des cours de conduite. J'aimerais bien comprendre ce qui fait la différence entre... Pourquoi eux ont cet agrément et pas vous, aujourd'hui?
Alors, beaucoup de choses là-dedans. D'abord, sur l'agrément. L'agrément, on devrait l'avoir depuis un an et demi. On a tout pour avoir l'agrément. Donc, il y a une question politique derrière. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, on a trouvé une... On va commencer cet été, ça je peux vous l'assurer.
À donner des cours de conduite.
C'est une bonne
nouvelle. Et on sera dans les clous, et on n'est pas du tout... Et là, le
scoop.
C'est le début d'un scoop. Je ne donne pas effectivement tout encore, parce que il y a des concurrents, et j'aimerais pas non plus leur donner des infos, parce que en fait, dans l'écosystème qu'on a initié, et c'est bien qu'il y ait du monde qui arrive, parce que le but, c'est que toutes les auto-écoles, même de France, passent au numérique. C'est ça, on veut pas être le seul à prendre le marché. Le but, c'est de mettre du numérique
Beaucoup commencent à le faire. Le mien a passé son permis il y a 3-4 ans, je crois, et en fait, il est allé 2-3 fois pour s'entraîner dans l'auto-école, mais sinon, tout était sur Internet. Il a passé le code sur Internet.
Donc, alors, effectivement, il y a déjà des choses sur Internet, et vous parlez donc, par exemple, des concurrents qui, heureusement, font du code en ligne. Ils font du code en ligne. La différence par rapport à nous, c'est qu'ils utilisent le code de ces éditeurs historiques, qui en fait sont des éditeurs de bouquins, et donc ont pas toute
la pédagogie
peut-être qu'on peut mettre en place en ligne avec de la gamification, avec pas mal de choses autour, qui permettent de rendre l'apprentissage encore plus passionnant. Et ça, nous, la différence par exemple avec nos concurrents, c'est qu'on a notre métier avant tout, on est concepteur de produits. Ce qu'on fait, on est des développeurs, on est une équipe de designers, et ça c'est notre métier, on l'internalise, c'est notre compétence. La différence de tous ces concurrents, c'est qu'ils passent par des agences pour la plupart, et donc c'est pas leur métier, c'est des commerciaux, ils vont certainement très bien vendre des heures de conduite, il y a pas de problème. Mais on voit là peut-être la différence entre une boîte, une start-up qui invente des choses, qui réfléchit, qui reconsidère toujours, qui veut innover, et peut-être des copycats qui... Tant mieux.
Qui fait du numérique avec du vieux.
Qui duplique quelque chose qui...
Pourquoi eux ont réussi?
Pourquoi eux donnent des cours avec des moniteurs et pas vous, aujourd'hui, là en...
Alors, parce qu'effectivement, ils ont eu cet agrément. D'ailleurs, ils sont peut-être allés un peu vite en besogne parce qu'il y a des choses qu'ils respectent pas forcément. Et c'est pour ça qu'on attendait d'avoir, par exemple, la loi Macron qui passe, etc. Et ils l'ont eu parce qu'en fait, ils sont passés... ils avaient pas la médiatisation qu'on a eue. Ils ont pas été mis en avant comme ça. Et en fait, nous, c'est devenu politique. C'est-à-dire que Ornicar, notre agrément a pas été refusé puisqu'on peut pas nous le refuser. Il est juste en attente sur un bureau depuis un an et demi. Mais comme je vous le dis, c'est plus vraiment la question. Et de toute façon, on va commencer cette idée. Donc,
moi, j'ai une petite remarque. Vous avez l'air de faire les choses tellement bien, avec un tellement bon esprit, ça donne envie que vous vous attaquiez à d'autres choses. Alors, connexe au permis de conduire. Je pense à la formation des inspecteurs. Je sais pas. Il y en a pas assez. Ça sent la poussière. On en a tous rencontré des sadiques et je sais pas quoi. Je vais me faire des copains. Je suis sûre qu'il y a un truc à faire. Je pense aux stages. Je sais même pas comment
les
ça s'appelle.
Les stages de récupération de points.
De récupération.
Vous connaissez ce type de stage, Eve?
Ben non, justement. suis toujours. Parce que moi, je fais comme tout le monde. Hein. Je profite des permis.
Je roule sans permis, c'est plus simple.
Je profite des permis de conduire de mes potes qui roulent pas beaucoup et quand je me fais flasher, je. Ah, non, mais il y a quand même un truc complètement tordu avec le permis.
Aller plus loin, faire de la formation, faire des stages, effectivement, de récupération de poids.
Et puis peut-être, je sais pas, aller. À l'international,
il faut répondre en quelques mots là, Alexandre, on est charrette. Okay.
Alors effectivement, il y a plein de choses à faire, ça c'est sûr.
Pour apprendre à conduire, c'est oui.
Et pour chartier, voilà. On ira en Europe, c'est sûr. Le permis européen, c'est quelque chose qui arrive. Nous déjà, on va essayer de s'occuper de nos Français. Il y en a 1 300 000 chaque année. C'est l'examen le plus passé en France, vous le rappelez. C'est un truc qui est dément. Ça coûte trop cher, c'est trop long, c'est trop compliqué. Et nous, notre mission est là déjà de répondre sur tous ceux qui en ont besoin, qu'ils puissent avoir le permis de conduire. Et ça, c'est notre priorité.
En Icare avec Alexandre Chartier et comme marraine, Catherine Barba. On va marquer une pause dans cette émission. On se retrouve pour la dernière partie dans quelques minutes. On va vivre 24 heures avec Print, la coque de smartphone qui imprime les photos.
BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy saison 10 avec Nicolas Dose.
Voilà, suite et fin donc de cette dernière émission 24 heures avec nos 5 candidats. Donc on va partir sur les traces de Print avec David Zhang. Et puis en fin d'émission, là, d'ici une vingtaine de minutes, vous retrouverez nos 3 candidats, Bird Office, Ornicard, Print. Ils auront chacun une minute pour nous convaincre, enfin pour convaincre le jury la semaine prochaine de les sélectionner pour la finale du 29 juin. David Zhang, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, donc fondateur, cofondateur de Print, sélectionné par Eve Chégaret, qui est sa marraine.
Avec fierté.
Face à vous, toujours en mode good cop, Alain Bozzetti, Catherine Barba et Sylvain Arébi. Bon, tout de suite, on va regarder un petit portrait de David Zhang, le fondateur de Print. On y va.
Journée très spéciale aujourd'hui pour David. Après 4 ans à Polytechnique, le jeune homme va recevoir son diplôme de fin d'études. Et pour l'occasion, il a sorti l'uniforme.
On va rentrer encore dedans. Ça marque un peu la fin de l'année, la fin des études. On va pouvoir enfin s'envoler vers d'autres cieux, à San Francisco notamment. C'est une page qui se tourne, mais on sent qu'on a été bien préparé pour la suite.
Parce que Polytechnique, ce n'est pas seulement une formation d'excellence, ce sont aussi certaines valeurs que David a fait siennes.
Être exemplaire auprès des autres, c'est être exemplaire, mais aussi beaucoup aider. Le but, c'est pas d'être le premier, c'est que le dernier aille aussi vite que nous, quoi.
Son associé, Clément, lui aussi polytechnicien, confirme. L'entraide chez David, c'est primordial.
Sans le montrer, en fait, il a un grand cœur. Il va chercher à aider les gens de toute manière possible. Deuxièmement, il est très logique. Et ça, c'est bien parce qu'il va porter ses arguments de cette manière-là. Et ça va amener aussi à sa troisième qualité. C'est le fait qu'il soit très franc. Il va apporter les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les maquiller.
Les parents de David, arrivés de Chine dans les années 80, sont bien sûr présents à cette remise des diplômes. Terriblement fiers et émus. Ce sont eux qui ont inculqué le goût de l'effort à leur fils.
On l'a dit tout le temps que tu as des potentiels, mais si tu ne fais pas des efforts, tes intelligences ne peuvent pas être exploitées.
Dans nos traditions, on sait si on ne fait pas des efforts, on ne peut pas recueillir des fruits.
30 ans après ses parents, David s'apprête lui aussi à traverser un océan, celui qui le sépare des États-Unis et de la Silicon Valley.
David Zhang, réaction à ce portrait. En plus, c'était un jour important quand même, remise des diplômes à Polytechnique.
C'est toujours marrant de se voir de l'extérieur comme ça. On n'a pas l'habitude.
Bon.
Alors, si vous voulez de la débauche à la Hollywood, c'est pas chez David Zhang qu'il faut aller. Hein.
Bon. Un garçon synthétique, je crois.
Hein. Un garçon synthétique.
Oui, juste parce que le reportage David finit sur votre départ, notre délocalisation à San Francisco.
Oh, pas déjà.
J'ai une question qui me.
J'ai même pas encore rappelé ce qu'il fait dans la vie. Allons-y.
Allez-y, Nicolas.
Allez-y.
La question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que quelqu'un vous a appelé en apprenant que vous partiez, pour dire restez en France, soit un entrepreneur, soit Bercy, soit je sais pas, est-ce que quelqu'un...
J'en reviens Léon.
Voilà, est-ce que quelqu'un vous a pris son téléphone, vous a pris sur LinkedIn pour dire David, restez en France, et qu'est-ce qui vous ferait rester en France?
Alors, non, personne ne nous a dit de rester en France. Au contraire, tous les entrepreneurs qu'on rencontre, ou investisseurs, ou autres, tout le monde dit, mais en fait, vous faites vraiment bien de partir aux États-Unis, enfin, c'est là qu'il faut faire votre produit. Enfin, dans notre contexte à nous, sur notre boîte, tout le monde dit, mais partez, ça fait sens. Et tous les gens comprennent, ont réussi à comprendre. Après, j'ai pas encore eu les gens de Blablacar ou autres qui m'ont appelé pour me dire oh, non mais faut rester en France, faut développer la start-up en France.
On va avoir l'occasion d'en discuter. Hein. Création de Print en juin 2014, 1,6 million de dollars de chiffre d'affaires espéré en 2015, 20 millions de dollars en 2016. Il y a 80 000 dollars de prévente du produit Print aujourd'hui, alors qu'il n'est même pas encore livré. Il sera livré qu'à compter du mois d'octobre. Aujourd'hui, il y a quoi, 15-16 personnes, la majorité à Paris. Bon, on a bien compris qu'à compter de l'automne, bien, tout le monde sera en Californie. Ça a été un peu la petite douche froide
Pas tout le monde.
On va en reparler. C'est une coque dans laquelle on clipse son iPhone ou son Samsung et on va pouvoir imprimer tel un Polaroid ses photos en 30 secondes en couleur. 140 euros pour la coque, 5 euros pour la recharge de 10 feuilles de papier, et puis cette fameuse levée de fonds qui nous a tous frappé. Là où vous vouliez 50 000 dollars, vous en avez levé 1,5 million sur Kickstarter en moins d'un mois. Donc, 24 heures sur les traces de David Zhang Print avec Eve Chegaray. On y va.
Eve Chegaray a rendez-vous aujourd'hui avec David à Agoranov. C'est dans cet incubateur d'entreprise à Montparnasse que travaille le cofondateur de Print et sa jeune équipe.
Hey, salut David, oui, ça va. Ce que j'attends de cette journée, c'est vraiment de connaître leurs besoins en management, en communication interne. Je sais qu'ils se développent, ça va vite. Et il faut que je l'aide à mettre les bonnes pratiques RH en place.
Là, on est pile au tournant où on passe du petit projet de garage à 5-6 personnes à une quinzaine, vingtaine de personnes.
La start-up est surtout à l'aube d'un grand changement. Toute l'équipe déménage à l'automne pour San Francisco. Eve va donc prodiguer ses petites astuces RH à David et à Clément, l'autre cofondateur de Print.
Dans votre boulot quoi, de start-upper, il y a aussi rassurer vos équipes. Donc comment vous allez faire ça? C'est de l'oral et de l'écrit. C'est de l'individuel et du groupe. Parce que dans une boîte, quand on vit pas mal en collectif, comme ça on travaille tous ensemble, on est en open space, il faut aussi des moments où on a des relations one-to-one avec son boss. Vous avez besoin de faire du collectif, parce qu'il faut que tout le monde entende la même chose en même temps et puis vive le truc en même temps. Et il faut que vous les rassuriez sur le fait que l'aventure, c'est pas que de l'aventure. Il y a aussi des choses qui sont établies, qui sont calées et sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer.
Pas facile pour ces jeunes patrons de se positionner par rapport à des employés parfois plus âgés qu'eux. Le conseil d'Eve, des débriefs réguliers.
Il doit y avoir un moment où vous mettez vraiment le focus sur ce qu'ont fait les gens et qui a particulièrement bien marché. Ce qu'a fait l'équipe et qui a eu moins de succès. Qu'est-ce qu'on en a appris? Comment on peut s'améliorer pour le coup d'après? Le management, c'est assez processé. Hein. C'est pas un truc que d'être sympa et de boire des cafés. Hein.
Mais David veut du concret. Facile de mesurer les performances de l'entreprise. Plus compliqué de mesurer le bien-être de ses employés.
Comment tu mesures le fait que les gens avec qui tu travailles sont contents de travailler, qui leur manque rien, qui sont heureux, quoi?
Ouais. Et ben, à ton avis?
Tu leur demandes?
Bah ouais. C'est un truc que tu demandes à tes troupes, ça. Et là aussi, tu le demandes à la machine à café, les yeux dans les yeux, comme ça, parce que tu sens un truc, mais tu le demandes en réunion avec tout le monde, et puis une fois par an, par écrit, toujours avec des suggestions. Qu'est-ce qui fonctionne bien chez nous? Qu'est-ce qui est plus délicat et qu'on pourrait améliorer? De quoi vous êtes fiers?
La recette d'Eve, faire le lien entre tous les talents de la start-up.
Print, c'est pas juste une fédération de divas, c'est autre chose. Il y a un truc en plus, quoi. Et ça, c'est votre boulot à Clément et toi de trouver cet ingrédient-là.
Pour les garçons, cette petite session avec Eve n'a pas été inutile.
Ce qui était intéressant, c'était du point de vue justement se mettre vraiment à la place de nos employés par rapport à leurs préoccupations. Par exemple, le fait de discuter avec eux régulièrement pour s'assurer qu'ils sont tous finalement heureux de ce qu'ils font et leur demander aussi comment ils feraient les choses s'ils étaient à notre place, c'est intéressant, je trouve.
C'est d'accord. En fait, la RH, c'est une matière à part entière. C'est comme apprendre à coder ou faire de l'électronique. Ça s'apprend et ça s'applique. Et avoir l'expérience de Dev sur ce sujet-là, ben, c'est exceptionnel.
Bon, David Zhang, l'indice du bonheur par Eve Chegaray. Voilà ce que je retiens globalement de ce qui s'est passé au début de cette journée.
Ben c'est ce que je trouve. Au final, le plus dur, c'est pas forcément de faire un produit ou autre.
C'est de faire un produit, c'est bien. Gagner de l'oseille, c'est facile. Mais alors, s'occuper du bien-être des gens, ça, on vous l'a pas appris. Hein.
Non, on l'a pas appris.
Ah ouais, il n'y a pas d'algorithme. Hein.
Ouais, malheureusement, je suis très logique, apparemment. Ah, donc,
À Polytechnique, il n'y avait rien sur le management.
Ouais, bah, c'est différent. Enfin, on est à Polytechnique, on est avec 500 polytechniciens. Ils ont tous un peu leur ego, donc c'est dur de travailler. Enfin, de travailler en équipe comme ça.
Ah, bon, réaction, Eve Chigaray.
Moi, j'ai été assez désarçonnée, en fait. Et c'était très stimulant, justement, de travailler avec eux. Parce que, justement, Clément et David, ici présents, sont tellement dans la discrétion. Alors, Clément est un petit peu plus expansif que David, mais David est tellement dans la discrétion, dans la droiture, l'honnêteté, la simplicité aussi. Il n'est pas show-off, il n'aime pas les gens. Et moi, l'essentiel de mon travail, c'est quand même d'apprendre aux gens à briller, je ne vais pas dire en société ou dans les dîners en
ville. Non, mais bon, à se vendre, avant leur produit, à exister. Vendre, quoi,
exactement, à prendre toute leur place. Et là, il fallait que je trouve des choses qui leur soient utiles, qui les aident à prendre leur place, et en même temps, qui respectent leur nature profonde. Et c'était un sacré challenge. Mais je pense qu'on a commencé à trouver des choses.
C'est important, on ne change pas les gens totalement. Hein.
Non, puis de toute façon, ouais. Quand on se change, ça ne marche pas. Il faut rester authentique pour que ça fonctionne. Mais... Et c'est une problématique intéressante, ou un enjeu en tout cas, pour les boîtes comme ça, techno. Voilà, on est des ingénieurs, plutôt bien formés, tête bien faite, mais il faut aussi devenir des managers, des développeurs, des commerciaux dans une certaine mesure.
Gestionnaires.
Comment on devient tout ça, David? Ça veut dire qu'il faut recruter des gens de confiance, mais qui ont ces fibres-là que vous n'avez pas forcément?
On apprend sur le tas. C'est un peu comme tout. Hein. C'est comme apprendre à coder, on apprend sur le tas. Et c'est aussi pour
j'ai appris à coder pour beaucoup de temps. Un jour, c'est sorti.
Au final, on pense que c'est plus dur d'apprendre à coder. Moi, je pense que c'est plus dur d'apprendre à manager des gens, honnêtement. Parce qu'apprendre à coder, il y a des livres, il y a des cours, et ça se fait assez facilement, t'es tout seul. Apprendre à manager des gens, c'est vraiment... Je trouve que c'est la matière la plus dure que j'ai eu à faire depuis le début de l'aventure.
Je crois que je vais coder la semaine prochaine.
Ça confirme que c'est un métier.
Oui, puis qu'on n'a pas tous le cortex formé de la même manière.
Attention, ce qu'il y a, c'est que quand on est face à des cerveaux qui pulsent comme ça, vous donnez 3-4 directions, 3-4 bonnes pratiques de ce qui se fait en management, et puis ça y est, c'est intégré. Hein. Donc je pense qu'on va avoir des effets rapidement. Et sachant qu'il y a ce gros challenge, ce gros déménagement qu'évoquait Alain, à la rentrée prochaine... Donc, regrouper l'équipe, il va se passer des choses, parce qu'il y en a qui sont déjà aux États-Unis, qui ont un peu leur mode de vie là-bas.
Léon.
Comment ?
Vas-y, Léon.
Et qui, David, dans l'équipe, gère le côté rentabilité ? Parce qu'on fait ça pour se faire plaisir, et c'est formidable, mais on veut quand même être pérenne et faire un business rentable.
C'est Clément qui est plutôt sur la partie finance.
D'accord.
Et gestion des finances et du business, c'est plutôt lui.
D'accord. Donc, mais toute la partie sourcing, achat du produit, enfin que vous achetez, la marge que vous allez générer.
Il est fabriqué où ce produit ?
Il est fabriqué en Asie. C'est la capitale de l'électronique en fait.
Ouais.
Donc, on fabrique là, mais avec une usine en fait qui est américaine, enfin un groupe qui est américain à la base. Donc, on va se faire aider sur le développement aux États-Unis. Et dès que le produit est assez mature, on va faire les premières unités aux États-Unis. Et dès que le produit est assez mature, on va pouvoir le délocaliser en Asie.
Et vous allez économiser beaucoup d'argent en partant en Asie ?
C'est pas une question d'économiser plus d'argent. En soi, l'électronique, si le design est très bien fait, ça coûte aussi cher de le faire en France, aux États-Unis ou en Asie. C'est une question de compétences, en fait. C'est que vraiment toutes les compétences, notamment plus sur la mécanique que sur l'électronique, elles sont vraiment en Asie. Vous demandez à n'importe qui, ceux qui font les moules à injection, tout le monde les fait en Asie parce que c'est les meilleurs pour faire ça.
D'accord.
Donc c'est vraiment pour ça.
Moi, je voudrais revenir sur un autre sujet, parce que comme on est parti sur San Francisco dès le début, je trouvais ça vraiment joli de voir David et ses parents à Polytechnique. Alors moi, j'étais une petite souris, je suis allée à la remise des diplômes aussi. D'abord, ça fait quelque chose d'avoir toute cette jeunesse en uniforme, c'était un peu particulier, il y avait vraiment... comme de la tension dans l'amphi, et je voyais les jeunes sortir et on pourrait les imaginer blasés, et ils se montraient leur diplôme comme si ça y est, ils avaient le Graal. C'était vraiment un chouette moment de voir tes parents, c'est top. Et quand on parlait entre les différentes prises l'autre jour, David me dit « Ah mais moi, mes parents, avec mon frère, ils nous ont pas du tout poussé. » Son frère a fait HEC, ils nous ont pas du tout poussé. Ils nous ont dit, donne le mieux de ce que tu peux donner, fais ton mieux. Il me dit, bon, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, il y en a un qui est HEC, l'autre qui est polytechnicien.
Bon, on va voir le mieux qui nous a gardé pour la fin lors de ces 24 heures avec David et Eve Chigaray. C'est parti.
Après avoir passé un moment avec le duo, Eve va maintenant se consacrer à David. Le polytechnicien sait qu'il n'est pas un grand communicant. Réseauter, pas vraiment sa tasse de thé.
Networker en général, j'aime pas trop et j'aime pas. Enfin, je suis pas forcément le genre de mec à aller voir les gens pour parler de print ou pour parler de leur boîte ou des choses comme ça. Parce qu'à chaque fois que je rencontre des gens, c'est en mode ah non, mais moi j'ai fait ça, je suis trop fort, j'ai fait ça. Enfin, et moi, écouter des gens
dire que c'est des malades, des hantés, surtout pour en général, pour des choses pas extraordinaires.
Ça t'intéresse pas.
Ça m'irrite même.
Ève va confier à David quelques astuces pour être plus à l'aise en public et réussir à aborder les gens.
Tiens, on va prendre une situation. Imagine que t'es dans Agoranov aujourd'hui, mais que t'es pas print. Et il y a BFM qui est là pour tourner et tu veux venir à notre rencontre et essayer de voir si on pourrait faire un sujet sur toi ou quoi. Qu'est-ce que tu nous dirais?
Après quelques hésitations, David finit par trouver la bonne réponse.
Je sais pas, qu'est-ce que vous faites là?
Tu vois, t'as quand même dit un truc, c'est qu'une rencontre, ça commence par une question. Et les questions, c'est quoi? C'est l'ouverture et c'est les possibilités et c'est pas le jugement avant la réponse, quoi. Toi, David, tu vas gagner vraiment en étant ouvert à la surprise de ce que les autres peuvent amener.
Bilan de la journée, des conseils précieux que David compte bien mettre en pratique.
Ce coaching avec elle, c'était génial parce qu'au final, faut qu'on se le rappelle, j'ai 24 ans, j'ai encore tout à apprendre, c'est mon premier job. Donc, commencer à gérer des personnes, travailler avec 15 personnes, c'est tout nouveau et c'est des conseils qui vont être hyper utiles pour la suite.
Journée, ce type est formidable. Il est ambitieux, simple. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai pu lui apporter quelque chose de concret pour manager son équipe, pour structurer le développement de sa boîte et les aider à grandir avec de bonnes bases.
Bon, heureux, David, d'avoir passé une journée avec F. Chigaret.
Toujours.
Ah oui.
Non, et puis,
très glamour,
rappelle,
cette émission depuis le début.
Ça devient un peu l'armoyant.
Ouais, c'est collection Harlequin, la croisière s'amuse.
On va parler de chiffres.
On va parler de chiffres.
On peut rentrer dans le dur, là, pour le coup.
On a eu de la chance, c'est que Clément, son associé, était en France à ce moment-là, puisque c'est lui qui a ouvert le bureau en Californie il y a quelques mois. Et donc là, c'était vraiment une chance qu'au moment de nos tournages, Clément soit là et on a pu bosser tous ensemble. Et ça aussi, c'était précieux. Parce que c'est pas facile pour des jeunes start-upers comme ça d'avoir dû se séparer.
Bon, c'est David, vous allez le distribuer où, votre coque, votre prix qui va être distribué où?
Alors, il va être distribué au début. Alors, dans les canaux de distribution, on va commencer sur le site internet, donc ça reste assez mondial. Et les sites comme Amazon, dans un premier temps, ça nous permet de garder les marges que les distributeurs vont faire. Ensuite, on va cibler tout de suite des distributeurs physiques, mais très spécifiques pour en fait la marque, pour l'image de marque de notre produit. Ça va être les Urban Outfitters ou autres. Alors, nos efforts restent quand même concentrés aux États-Unis, sachant qu'on a des opportunités déjà qui se sont ouvertes en France avec la Fnac ou autres, et notamment en Asie aussi. Et après, dès qu'on aura assis, enfin, on se serait fait la main sur les distributeurs. On est déjà en discussion avec des plus gros distributeurs tels que Best Buy ou Target.
D'accord. Aux États-Unis, c'est un business américain parce qu'aux États-Unis, c'est gratuit le shipping. En Europe, c'est $20, si j'ai bien vu sur votre site.
Oui.
Donc, c'est une base américaine, véritablement, que vous avez bâti.
Oui. La logistique, elle a été construite aux États-Unis et c'est de là qu'on re-ship.
Comment vous fonctionnez, justement, sur cette partie logistique?
Alors, on a engagé quelqu'un, un VP of Operation, qui s'occupe de toute cette partie.
Qui vient d'où?
Qui vient des États-Unis. Qui,
chez Colliweb.
Qui a l'expérience justement de travailler avec ce genre de start-up et qui a fait des start-up comme ça qui ont vendu beaucoup.
D'accord. Et sur le SAV, pardon, le service client?
Alors le SAV, ça va se mettre en place, ouais. On sait que c'est très important. Je sais que, non, là je suis pas le spécialiste dans ça, donc je peux répondre avec ce que je sais. C'est qu'il y a une partie souvent qui est prise en charge par les distributeurs. Par exemple, nous, qu'on a parlé aux personnes en Asie, au Japon, ils nous ont dit, non, tous les retours, ça se fera par nous et c'est nous qui nous occupons de tout le SAV. Après, c'est quelque chose qu'il va falloir construire chez nous et c'est une équipe qui n'est pas encore mise en place, sachant que le produit sera shippé en fin d'année.
Et David, donc aujourd'hui, vous avez des prototypes, pas encore de pré-série.
Non.
Donc vous allez passer à quel moment en pré-série et avez-vous la garantie que les prototypes et la promesse faite notamment au Kickstarter, sur Kickstarter ou aux internautes, ils recevront un produit en état de fonctionnement tel qu'ils n'auraient rêvé, imaginé?
Oui, complètement. On est en plein dedans en fait. Et le truc qui est rassurant, entre guillemets, c'est que notre technologie, elle n'est pas nouvelle. Donc c'est quelque chose que les usines savent déjà faire. Et justement, on a choisi nos usines aussi en fonction de ça. Donc vous parliez de l'Asie tout à l'heure. Mais c'est aussi pour ça qu'on part en Asie, c'est qu'on choisit une usine parce qu'elle sait faire notre produit et pas parce qu'elle est en France ou aux États-Unis ou autre. Donc c'est justement
Donc pour rassurer les gens, oui, le produit va être sorti, c'est sûr, parce qu'on a signé les deals avec les usines, les produits vont sortir. Il reste encore pas mal de détails à fignoler, parce qu'un produit, bon, ça, c'est quand même compliqué à faire, un produit physique. Mais au moins, on est rassuré parce que ces personnes-là savent où elles vont et savent comment finir ce produit-là.
Oui, mais dans un processus d'industrialisation, ce qui est le plus compliqué, c'est le dernier centimètre, en fait. C'est le dernier micron. Même.
Exactement, oui.
Et il faut lier le design industriel, puis il y a le design.
Il y a la mécanique. Oui. Ouais. C'est facile de faire 95% du produit, ce que je dis visuellement, de faire quelque chose qui marche à peu près. Ce qui est très dur, c'est 5 derniers pourcents, et c'est ce qui prend le plus de temps, et c'est la phase où on est en ce moment.
Qu'est-ce qui fait votre vraie différence? Moi, ce que je trouve extraordinaire dans votre produit, c'est pas tant l'impression de la photo que la petite vidéo qui va avec. Ouais. C'est ça la différence, parce que
on n'a pas parlé de ça.
C'est quand même extraordinaire, ouais. Ça. Dites-nous deux mots là-dessus. Et qu'est-ce qui fait votre vraie différence?
Rappelez-nous le principe de cette vidéo, effectivement, par rapport au boîtier print, parce qu'on n'a pas rappelé le concept.
Nous, au final, l'idée derrière, c'était que, au final, quand on a un Polaroid, c'est pas juste la photo qu'on aime, c'est toute l'expérience qui est autour et les amis qui s'excitent, qui se préparent pour la photo. Donc nous, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse communiquer ce moment-là avec n'importe qui. Donc ce qu'on fait, c'est qu'au moment où on prend une photo, on enregistre une petite vidéo de 5-6 secondes juste avant la photo. C'est un peu une sorte de making-of de la photo.
C'est le making-of de la photo.
On voit les gens sourire, tomber par terre, etc. Mmh. Et le but, c'est qu'en fait, ou même par exemple pour les premiers pas de ses enfants, donc on peut avoir la photo physique, je la donne à ma grand-mère, elle peut scanner la photo et elle voit vraiment son petit enfant...
Ma grand-mère, elle scanne beaucoup.
Hein. Donc,
elle va prendre la photo physique et elle va scanner la photo pour voir ces fameuses secondes qui précèdent.
Exactement.
C'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça? Est-ce qu'il y a une technologie vraiment très particulière, propriétaire derrière ça?
Cette technologie, en soi, elle existe depuis des dizaines d'années. C'est de la réalité augmentée, c'est de la reconnaissance d'image. C'est pas quelque chose qui est nouveau, mais nous, on l'a intégré de telle sorte que sur l'expérience utilisateur, ça fasse sens. Parce qu'il y a encore pas mal de gens qui essayent de sortir cette technologie-là. Mais le truc, c'est que les consommateurs ne produisent pas leur propre support. Nous, c'est le consommateur qui produit son propre support et qui va pouvoir justement voir plus de choses derrière.
Comment vous l'avez eu, cette idée-là? Parce que quand on s'est croisés au début, il n'y avait pas encore l'idée de la vidéo. Oui. Qu'est-ce qui l'a fait naître?
Nous, ce sera le mot de la fin, David.
On s'est croisés au début. En fait, on a toujours eu derrière la tête l'idée qu'en fait, on voulait faire ce produit. Pour nous, c'était un outil de communication. Donc on voulait faire, notre produit, c'est pas vraiment la coque, c'est le papier, et on veut que les gens interagissent autour de ce papier. Donc on s'est dit, comment rendre le papier connecté, en fait, c'était un peu ça la question. Et après, il a fallu tâtonner, voir quelle technologie pouvait faire sens. Il y a des QR codes, mais un QR code, c'est pas joli. Donc on est parti sur cette technologie là et il faut la rendre plus stable maintenant.
Merci d'avoir été là, Alain Bozetti, Catherine Barba, Sylvain Rémy. Vous restez avec moi, F. Chegaray. Il reste encore trois grosses minutes, on va dire, dans cette émission, avec une minute pour Arnaud, une minute pour Alexandre, une minute pour David, une minute pour nous convaincre de voter pour eux pour la finale.
BFM Academy, saison 10, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Et il faudra qu'on croie en eux, nous, l'équipe qui va voter, F. Chegaray et tous ceux que vous connaissez. Donc voilà, comme la semaine dernière, eh bien une minute pour nous convaincre de voter pour vous pour la finale. On commence avec Arnaud Katz pour Bird Office. Allons-y, Arnaud.
Bird Office, ça répond à un vrai besoin de toutes les entreprises. Pour la première fois, elles vont pouvoir réserver en quelques clics une salle de réunion. On est une plateforme globale, en fini avec la galère de trouver une salle.
D'accord. Et il y a toute une partie service dont on n'a pas parlé?
Exactement. En plus de toutes les salles, on propose du coup tous les services associés à cette location de salle.
C'est Arnaud Katz, donc avec Bird Office. Il est notre troisième candidat. Le quatrième de cette saison 10 s'appelle Alexandre Chartier, Ornicard. Alexandre.
Alors pourquoi voter pour Ornicard? Plutôt pour qui? Pour le million de candidats qui passent les permis de chaque année et qui payent trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop long. Pour les 700 enseignants qui ont qu'une envie, c'est de commencer avec nous. Et pour les 12 de l'équipe d'Ornicard qui travaillent depuis 2 ans, qui se démènent, qui se lèvent tous les matins pour une seule chose, c'est simplifier tout ça. Donc, votez pour nous, pour Ornicard.
Et on termine avec notre cinquième candidat donc pour cette saison 10. Il s'appelle David Zhang. Il était avec nous il y a quelques instants pour Print. Allons-y, David.
Pourquoi voter pour Print? Déjà, pour le projet, le produit, si vous touche. Mais je pense que c'est avant tout pour une histoire d'entrepreneur. C'est deux petits gars qui savaient rien faire. Et qui ont montré, je pense, que tout est possible de lever 1,5 million sur Kickstarter et d'essayer d'attaquer les grands aux États-Unis maintenant.
Je rappelle juste que Print, c'est une coque pour imprimer des photos avec son smartphone. Vous n'avez pas fait une minute, vous avez fait tous, à mon avis, dans les 40-45 secondes.
Ouais.
La semaine prochaine, Eve, on met le paquet, c'est-à-dire qu'on va changer...
Alors on change d'état d'esprit.
On change d'état d'esprit. On a fait
on
voilà deux.
Bad Cops.
On a fait deux émissions super sympas, vraiment dans Je t'accompagne, je vais t'aider, tu vas grandir, compte sur moi. La semaine prochaine, on va devenir Bad Cop et vous serez tous ceux qui êtes parrains, marraines de nos différents candidats. Vous serez leurs avocats, mais en face, devant, il y aura du répondant, je peux vous l'assurer. Et après, ce sera la finale en direct le 29 juin. À la semaine prochaine.
BFM Academy, saison 10. Il n'en restera qu'un.